Говорит Москва.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Bonjour à tous, chers amis. J'aimerais vous dire que je suis très heureux de vous retrouver, et c'est le cas. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'actualité ne se prête pas vraiment aux réjouissances. Je fais bien sûr allusion aux incendies qui ravagent le sud-ouest de la France, qui sera l'objet principal de ce podcast. Podcast qui, comme vous le savez, vient en sus des podcasts mensuels, puisque chaque fois que l'actualité l'exige, eh bien, nous publions le dimanche soir un podcast. C'est donc pour traiter cette actualité en particulier que j'ai décidé d'enregistrer un podcast. Mais, auparavant, je dois vous parler un petit peu de l'évolution du site. Nous avons donc un site qui essaie d'évoluer, notamment au niveau des podcasts. Pourquoi ? Eh bien parce que les podcasts hébergés trouvent un peu leurs limites, et c'est pourquoi nous avons décidé d'ouvrir une chaîne YouTube qui est créée depuis 6 jours maintenant. Sur cette chaîne, vous pouvez trouver des podcasts anciens. Alors, ils n'y seront pas tous, hein, les podcasts anciens, parce que il y en a, à mon avis, qui ont une durée de vie qui ne dépasse pas un peu, qui ne dépasse pas leur actualité, on va dire ça comme ça. Donc, ils n'y seront pas tous, mais un certain nombre y sera. De toute façon, vous pouvez toujours, si ça vous intéresse, les retrouver sur le site, parce qu'ils y restent. Mais je n'ai pas jugé intéressant de les mettre nécessairement sur YouTube. On les met de toute façon petit à petit. En revanche, tous les podcasts nouveaux iront sur YouTube, c'est-à-dire qu'ils seront toujours publiés sur la plateforme, ça ne change pas, mais ils seront aussi publiés sur la chaîne YouTube. Je vous demande de faire bon accueil à cette chaîne YouTube qui compte aujourd'hui, 6 abonnés. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça. Hein. Il faut bien commencer par quelque chose. Elle était à 0. Maintenant, nous sommes à 6 abonnés. Donc si vous voulez faire partie des premiers, quand la chaîne aura 2,5 millions d'abonnés, pour dire « mais moi j'y étais au début », eh bien c'est le moment de vous abonner donc à notre chaîne, et vous êtes véritablement les bienvenus pour vous tenir au courant des podcasts qui sortent et puis des activités. La chaîne, bien sûr, évoluera. Hein. Pour l'instant, nous prévoyons que des podcasts audio, mais à terme, pourquoi pas enregistrer certaines vidéos, certaines choses comme ça. On va pouvoir... Tout ça est appelé à évoluer au fil du temps. En sachant que, bien sûr, il faudra être très prudent. Alors, il y aura parfois des extraits simplement de podcasts parce que c'est la liberté encadrée par les anglo-saxons gauchistes. Je vais rester assez vague. Mais c'est quelque chose qui est très encadré au niveau de la liberté d'expression. Par conséquent, nous devons faire parfois attention, et comme tout ne peut pas se dire, eh bien nous gardons notre ce que Christian Combaz appelle la zone libre, où vous pourrez bien entendu retrouver une latitude beaucoup plus importante pour s'exprimer. Je ne conclurai pas ce chapitre sans remercier Philippe Dugard qui m'a donné un sérieux coup de main pour la mise en place de cette chaîne YouTube. Donc merci bien sûr à lui, c'est un auditeur et lecteur fidèle de ce blog et de ses podcasts. Par conséquent, je le remercie, beaucoup merci à lui et son aide m'a été extrêmement précieuse. J'en viens à présent au sujet principal et à l'objet principal de ce podcast, à savoir les incendies qui ravagent les forêts du sud-ouest, en particulier de la Gironde et des Landes de Gascogne. D'abord parce que c'est des contrées qui me sont extrêmement chères, puisque je suis natif de Gironde. Et ensuite, parce que c'est quelque chose de tout à fait sans précédent. On parle aujourd'hui d'évacuation sans précédent dans la région de Bordeaux. On a évacué le Cap Ferret, une partie de la commune du Cap Ferret. On a évacué toute la presqu'île du Cap Ferret, une partie de la commune du Cap Ferret, la partie Lège, est détruite. Totalement détruite. Quelqu'un me disait que le cimetière était en feu. Vous imaginez un peu le traumatisme pour les gens. C'est quelque chose d'absolument. On n'a pas les mots, hein, tout simplement. Tous les superlatifs ne suffiront jamais pour exprimer la peine et le traumatisme que peuvent ressentir les gens qui vivent sur place ou les estivants. Ça relève tout simplement de l'indicible. En revanche, et vous me connaissez, moi je fais de la politique, donc en tout cas, je suis publiciste politique, on va dire ça comme ça. Et je suis obligé, bien entendu, de m'interroger sur les aspects politiques de cette affaire. Tout d'abord, je suis obligé de vous ramener, 50 ans en arrière, un demi-siècle. Souvenez-vous de la sécheresse de 1976 et des années qui ont suivi. À cette époque-là, ça ne brûlait pas dans le sud-ouest. Ça brûlait dans le sud-est, de l'autre côté, côté Méditerranée, et en particulier sur la Côte d'Azur. Ça tombait bien, on avait besoin de place pour construire, pour construire de l'immobilier et pour spéculer sur les terrains. Vous vous souvenez peut-être que le complexe d'entreprise Sophia Antipolis a été construit sur d'anciennes terres brûlées, si j'ose dire. Et petit à petit, on a vu pousser, les arbres brûlés avantageusement remplacés par du béton. Et puis, quand ça a été bien sali, bien bétonné et surtout extrêmement cher et surpeuplé, les gens, les gens qui ont les moyens ont décidé de se transférer côté océan. Et en particulier, comme par hasard, dans la région du Cap Ferret. Tiens, voilà. Et bizarrement, alors évidemment, ça a considérablement fait monter les prix. Il y a eu des permis de construire octroyés dans des conditions qui pourraient peut-être, si on s'y penchait dessus, être sujet à caution. Il y a eu un certain nombre de choses assez bizarres. On a entendu parler de constructions qui étaient souvent qui laissaient à désirer. Vous savez que là-bas il y a beaucoup de sable. Et par conséquent, évidemment, qui dit construction, dit spéculation, qui dit spéculation, on dit envoler des prix, les prix se sont envolés, et maintenant, eh bien, les promoteurs qui sont insatiables ont des besoins. Et comme par hasard, alors je dis pas, attention, je suis pas en train de dire que ce sont les promoteurs qui ont décidé de brûler les forêts. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que, bizarrement, là où il y a de la spéculation immobilière, il y a des forêts qui brûlent. Ça, c'est un fait indéniable. On a parlé tout à l'heure de la Côte d'Azur, maintenant, voilà, ça c'est indéniable. Un autre fait indéniable, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Intérieur. 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Un autre fait indéniable, c'est que la plupart des incendies, pour le coup je n'ai pas de chiffres parce qu'on n'en a pas, mais la plupart des incendies d'origine humaine sont des incendies volontaires. Les auteurs de ces incendies volontaires ne sont jamais poursuivis. Il n'y a jamais de condamnation. Pourtant, les peines encourues sont très lourdes. On parle de peines extrêmement lourdes. Ça peut aller jusqu'à perpétuité. Si vous mettez le feu et que le feu a occasionné plus ou moins directement des pertes en vies humaines, vous risquez perpète, d'accord ? Bizarrement, jamais de peines ne sont prononcées. Ça, ce sont des faits qui, mis bout à bout, ont de quoi scandaliser passablement la population. C'est l'été. Mais enfin bon, là, c'est quand même très lourd. Hein. C'est vraiment. Je connais des personnes, indirectement des personnes qui ont été évacuées de la presqu'île du Cap Ferret. C'est quand même quelque chose d'extrêmement lourd. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, je crois, le cimetière de Lège, parce que ce sont deux communes, hein, la presqu'île Lège, Cap Ferret. Le cimetière de Lège est en feu. Vous imaginez un peu quoi. Voilà, je sais pas quoi dire par rapport à ça. Donc tous ces faits mis bout à bout font une démonstration sans appel. Rien n'est fait pour qu'il n'y ait pas le feu. Et nous allons dans quelques instants expliquer pourquoi. Oui, parce que je voulais au préalable ajouter que les gens. Donc on ne poursuit pas les auteurs. Hein. Si on luttait, si on se mettait autant de moyens pour poursuivre les auteurs des incendies de forêt qu'on en mettait pour persécuter les gens pour antisémitisme, je vous garantis que ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus de feux de forêt. Vous me direz ça n'a rien à voir. La justice a ses priorités tout de même, voilà. Je constate en tout cas une chose, c'est qu'il y a plus d'antisémites que d'incendiaires en prison. Je ferme cette digression. Bien entendu, j'ajoute que aujourd'hui, on est la vétusté des moyens, notamment des moyens matériels, que ce soit les Canadair et autres, fait honte au pays tout entier. Ben oui, mais bon, on peut pas donner de l'argent pour l'Ukraine et s'acheter des Canadair. Il faut faire des choix. Il y a des priorités. Hein. C'est comme ça. Il y a des priorités. La Russie ne doit pas gagner. J'en viens à l'aspect encore plus sombre de ce podcast, à savoir que oui, je suis absolument certain que le crime profite bien au régime d'Emmanuel Macron et de sa clique. Vous savez, ces gens ne reculent devant rien, ils ont bien foutu le feu à Notre-Dame. Il n'y a pas de raison que ils puissent mettre le feu à des villes entières. Dieu sait que je n'aime pas Bernard Anthony. J'avoue que sa formule consistant à appeler Macron Macronéron était ma foi quand même extrêmement bien choisie et bien trouvée. Pourquoi ? Eh bien parce que comme je l'ai dit, on ne peut que noter l'absence de volonté politique pour ne pas qu'il y ait ces incendies, hein, vétusté, absence de poursuites judiciaires sérieuses, etc., etc. Mais il y a autre chose, c'est que ça arrange bien tout le monde. On veut vous faire avaler coûte que coûte, la transition écologique, au motif que les changements climatiques, si changements climatiques il y a, j'y reviendrai, les changements climatiques sont d'origine humaine, c'est-à-dire que c'est de la faute de René et de Jeannot qui roulent au diesel, on le sait. C'est de la faute des gens qui vivent. C'est pas du tout de la faute de Bernard Arnault qui ne voyage qu'en jet privé. Ça, non. Non, pas du tout. C'est de la faute des gens comme vous et moi qui ne demandent qu'une chose, c'est vivre tout simplement normalement, avoir des loisirs, faire des économies, et surtout être respectés dans leur dignité. Donc voilà, on vous explique hein, que tout ça est de votre faute, s'il ne pleut pas c'est de votre faute. Or, le discours prend pas. Le discours prend pas parce que d'abord ça fait plus d'un quart de siècle qu'on nous le sert. Les cataclysmes annoncés, notamment les Maldives qui devaient disparaître en 2020, non seulement n'ont pas eu lieu, les Maldives sont toujours là, merci pour elles, mais en plus l'état des Maldives est en train de construire un aéroport gigantesque pour accueillir encore davantage de touristes. Par conséquent, aujourd'hui, même eux n'y croient plus. Ils y ont cru, ils l'ont surtout fait croire, mais même eux n'y croient plus. Et bref, tous les cataclysmes qu'on nous avait annoncés n'ont pas eu lieu. Et il se trouve que les gens ont quand même une certaine mémoire. Vous savez, la mémoire est en train de... La gestion de la mémoire est en train de changer considérablement depuis qu'on a des outils pour enregistrer, depuis qu'on a Internet, depuis qu'on a des ordinateurs, depuis qu'on arrive à enregistrer des quantités de données importantes sur des surfaces restreintes. Tout ça, évidemment, a considérablement changé notre rapport, a considérablement modifié notre rapport à la mémoire. Par conséquent, il est facile aujourd'hui de se projeter 25 ans en arrière et de voir ce qu'on nous annonçait 25 ans en arrière et qui n'a pas eu lieu. Ainsi, on a raconté beaucoup, beaucoup de salades. Et aujourd'hui, il faut frapper les populations et surtout les populations qui persistent à ne pas croire les mensonges du régime. Vous savez, en Union soviétique, où j'ai vécu, les gens avaient une propension à faire semblant de croire les mensonges du régime communiste. Et le régime communiste de la République française, le régime bolchévique de la République française, a bien l'intention que vous fassiez exactement la même chose, c'est-à-dire vous y croirez de gré ou de force. Vous savez, la météo soviétique, c'est demain, il fera 25 degrés ou de force. Ben là, c'est pareil. Donc, il faut vous y faire croire. Alors, comme vous n'avez pas fonctionné... dans le narratif « il fait trop chaud, c'est de votre faute », comme vous n'avez pas fonctionné dans le narratif « c'est la sécheresse, c'est de votre faute », alors que, évidemment, comme il pleuvait 2 jours sur 3, ça marchait pas, etc. Donc, tout ça, comme vous n'avez pas fonctionné dans tous ces narratifs, maintenant on va passer à la vitesse supérieure, et ça tombe bien, les promoteurs ont besoin de terrain. Il y a 4 ou 5 ans, nous sommes allés nous promener avec mon épouse dans les Landes, précisément où c'est en train de cramer, notamment vers Parentis-en-Born, tout ça, vers Contis. Et on a vu beaucoup de lotissements en construction. Voyant ces lotissements en construction, Mon épouse m'a dit, ça va bientôt cramer ici. C'est des résineux, hein, des résineux qui sont là depuis presque 150 ans, on va dire, même un petit peu plus. C'est des résineux qui ont été plantés dans le cadre du reboisement de Napoléon III. Ça a été quelque chose, et nous reviendrons un moment, si vous le voulez bien, sur Napoléon III. Donc pendant 150 ans, ces résineux n'ont pas cramé, pourtant c'est hautement inflammable, hein. Le pain résineux c'est vraiment hautement inflammable, et ces résineux c'est très important, ces pains des Landes, ça a été un poumon économique pour la région, un poumon d'oxygène aussi parce que c'est du végétal, et ça participe à l'équilibre écologique dans la mesure où ça retient le sable. C'est bien ce que le régime a l'intention de détruire. Alors à l'époque, et il faut que j'y revienne, je vous avais promis de revenir un peu à Napoléon III, parce que à l'époque, Napoléon III, pour pas que les gens mettent le feu aux forêts, avait publié un décret, c'était en 1858, prévoyant des peines extrêmement lourdes pouvant aller jusqu'à la peine de mort pour toute, ou plutôt contre toute personne prise en flagrant délit d'incendie, de végétation. Et la question est de savoir, est-ce qu'il y a eu des peines de mort ? Eh bien non, parce que tout le temps où ce décret a été en vigueur, plus d'incendies. Terminé. Donc, aujourd'hui, quand on nous dit, vous savez, c'est extrêmement difficile de trouver les auteurs de ces crimes, parce que ça relève du crime, hein, c'est criminel, le fait d'incendier volontairement une forêt, c'est criminel. C'est délictueux de l'incendier involontairement, par exemple, je sais pas moi, vous faites un barbecue, vous faites des grillades près d'une forêt alors qu'on est en pleine sécheresse, c'est très grave, hein, mais ça reste de l'ordre du délit. En revanche, si vous mettez le feu, là, ça relève du crime. Alors à l'heure des drones, des satellites et tout, on n'est pas capable de surveiller, on n'est pas capable de trouver qui a mis le feu. On se fiche vraiment du monde. Et donc celui qui a mis le feu, c'est le criminel en chef, c'est le mari ou le fils, j'ai jamais bien compris, de Jean-Michel. Voilà, c'est tout. Un point, c'est tout. Ces gens-là sont des pervers, ces gens-là sont des vraiment c'est voilà, je suis obligé de m'abstenir parce que je veux pas me faire je veux pas les mettre des bips partout, vous n'aimez, je sais que vous n'aimez pas ça. En conséquence, on se retrouve aujourd'hui avec de la désolation, et je crois que ça va c'est quelque chose qui va rester dans l'histoire, dans la mémoire pendant des siècles, ce qui s'est passé ces derniers jours dans les Landes de Gascogne et dans le Bordelais. C'est quelque chose d'absolument épouvantable. Bien entendu, je ne peux qu'exprimer ma solidarité vis-à-vis des personnes concernées, des personnes qui ont été touchées, j'en connais, des personnes qui ont absolument tout perdu. Et évidemment, voilà, on ne peut que s'incliner. Voilà, mes chers amis, écoutez, j'en reste là pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est déjà beaucoup et c'est déjà lourd. Et j'espère que, en tout cas, vous ferez bon accueil, parce que le régime n'aimerait pas que vous partagiez ce qui est dit dans ce podcast. Donc, surtout, si vous voulez complaire au régime, surtout, évidemment, ne partagez pas. En revanche, si vous êtes comme moi et que vous voulez utiliser la seule force, en réalité, que vous avez, c'est-à-dire dénoncer ce régime, eh bien, faites connaître ce travail. Je sais, c'est modeste, mais faites-le connaître. Faites-le connaître à vos amis, faites-le connaître à vos proches, faites-le connaître aussi sur vos réseaux sociaux. Je n'ai que vous. Merci, et puis j'espère vous retrouver pour des choses peut-être un peu moins dramatiques, parce que plus lointaines, parce que moins sérieuses. J'aimerais bien vous parler, j'aurais bien aimé ne jamais avoir fait ce podcast. Il est là, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis moi, je vous dis à bientôt, au 15 août, et avant, si l'actualité l'exige, merci. Salut. Thank you.